Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on tente de mieux comprendre la relation, les liens, les interférences entre la technologie et notre cerveau. Un organe aussi complexe que mystérieux, objet de nombreux fantasmes. Cette semaine, le milliardaire Elon Musk a annoncé en grande pompe le premier implant par sa start-up Neuralink d'une puce dans un cerveau humain. Quelles sont les avancées scientifiques réelles de cette expérience et quel est le projet de l'entrepreneur qui vise à bâtir un homme augmenté, une sorte de cyborg capable de résister à la menace de l'intelligence artificielle dont il redoute un jour qu'elle puisse nous remplacer. Il sera bon de distinguer la science de la science-fiction. Où en sommes-nous en termes d'hybridation homme-machine? Quels sont les progrès en la matière depuis 20 ans? Et comment ces implants sont-ils utilisés pour réparer les vivants? Ces progrès peuvent-ils mettre en péril l'harmonie humaine? Quels en sont les risques? Et sommes-nous déjà entrés, sans le savoir, dans une société cyber? Pour en parler, un homme augmenté par son expérience de psychiatre, d'essayiste et de chercheur. Et cet homme augmenté, c'est vous, Raphaël Gaillard, bonsoir.
Bonsoir.
Enfin, l'homme augmenté, c'est plus exactement le titre de votre essai qui vient d'être publié chez Grasset. Vous êtes directeur du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité. Vous allez donc pouvoir éclaircir les 1400 grammes de notre cerveau en pondérant les fantasmes et en pesant les avantages et limites de ces avancées qui oscillent entre réparation et augmentation. Et on le sait, ici, la frontière est tenue. Au programme également, une chronique de Juliette Devaux sur le rapport qu'entretiennent les musiciens avec l'intelligence artificielle. En quoi peut-elle être une forme d'augmentation de leur créativité? Le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture. C'est parti.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.
Pourtant, je me sens confiné, limité dans le cycle de mon évolution.
Aux États-Unis, Elon Musk a révélé que la start-up Neuralink, dont il est cofondateur, a posé dimanche son tout premier implant cérébral sur un patient.
Attention, implant détecté.
Cette technologie pourrait permettre à l'homme d'augmenter ses capacités et de communiquer avec les machines.
Lancement du scanner.
L'entreprise néerlandaise Onward a annoncé le couplage d'implants cérébraux reliés à la moelle épinière afin d'aider un patient tétraplégique à retrouver de la mobilité.
Cerveau boosté, corps cybernétique. C'était tout récemment de la science-fiction.
Aujourd'hui, un ordinateur, tout ce qu'il voit de nous, c'est lorsque notre doigt touche l'écran du smartphone, ou touche un clavier ou manipule une souris. Ça reste extrêmement limité. Donc, avoir en plus ce canal d'information qui est l'activité du cerveau permettra d'améliorer les interfaces.
Et voilà un montage qui entremêle science et science-fiction. Et c'est vrai que lorsqu'on voit Elon Musk parler, s'exprimer avec tous ses canaux, il incarne aussi finalement ce mélange entre la science et la science-fiction. Elon Musk qui a fait l'actualité donc cette semaine en annonçant le premier implant de sa puce, hein, celle qui est fabriquée par Neuralink dans un cerveau humain. Alors concrètement, Raphaël Gaillard, à quoi ressemble cette puce et surtout à quoi elle peut bien servir?
Alors la puce, c'est une puce de silicium, comme il y en a dans votre ordinateur, et qui permet de faire fonctionner votre ordinateur. Mais là, son rôle, c'est d'enregistrer l'activité du cerveau à l'endroit où elle est implantée, de transmettre ces informations, cette activité à un ordinateur, et cet ordinateur lui-même transforme ces informations en une autre activité qui permet par exemple de commander un bras mécanique, qui permet de décrire le cas échéant, qui permet toute une série de choses que cette interface entre le cerveau et la machine permet au travers de cette puce.
C'est pour ça qu'on dit qu'elle permet potentiellement de lire dans les pensées, c'est-à-dire que lorsque le patient pense une action, qu'il la verbalise intérieurement, la puce le comprend, envoie le signal, un ordinateur le décode et la commande peut potentiellement se réaliser.
Exactement, l'idée est de court-circuiter notre motricité et nos sens. C'est-à-dire que plutôt que, comme on l'a entendu tout à l'heure, passer par votre action sur votre smartphone, c'est-à-dire votre motricité, vos doigts, c'est le pouce de petite poussette, ou bien plutôt que considérer qu'il faut que vous puissiez vous voir ce qu'il se passe sur l'écran de votre smartphone, eh bien on vient enregistrer le signal à sa source, c'est-à-dire depuis ce qui commande votre pouce, ce qui enregistre l'activité de vos yeux, et c'est à partir de ce signal qu'on crée une nouvelle information sur un ordinateur.
Alors, Elon Musk a fait de cette annonce un événement un peu spectaculaire, il l'a donné sur son réseau social X, mais finalement, lorsqu'on regarde l'état de la recherche, elle n'est pas si innovante, cette implantation.
Alors, ça dépend de l'échelle. Elle est hyper innovante à l'échelle de quelques années. C'est-à-dire que ces quelques dernières années, nous avons vu la réussite d'implantation d'électrodes puis de puces dans le cerveau de patients pour les soigner. Et quand je dis ces quelques dernières années, on peut remonter à une dizaine d'années pour ce qui est d'électrodes, par exemple dans la maladie de Parkinson. C'est une invention française d'ailleurs, celle de Halim Benhabib à Grenoble, qui a eu l'idée de mettre des électrodes dans une région clé du contrôle de la motricité qui est perturbée dans la maladie de Parkinson et qui est à l'origine de ce tremblement très invalidant de la maladie de Parkinson. Il a eu l'idée de mettre des électrodes à cet endroit et un courant électrique à une certaine intensité vient réguler l'activité de cette région cérébrale de façon à diminuer le tremblement. Les effets sont spectaculaires et c'est devenu aujourd'hui une pratique médicale courante. Ce n'est plus de la recherche, c'est une pratique médicale qu'on appelle en soins courants, c'est-à-dire dont peuvent bénéficier les patients qui relèvent de l'indication de ce type de traitement. Et puis beaucoup plus récemment, mais alors c'est vrai que c'est beaucoup plus récemment, c'est les 2-3 dernières années, eh bien on a vu que des patients, le plus souvent souffrant d'une paralysie, donc soit une paraplégie, imaginez que vous ayez perdu l'usage de vos jambes, par exemple. Eh bien, on va prendre l'activité de votre cerveau qui commande votre jambe. On va transférer cette activité sur un ordinateur qui va transformer cette activité dans une commande qui est envoyée sur votre moelle épinière en dessous de la lésion. La paraplégie était liée à une lésion de votre moelle épinière et qui va recréer une commande motrice efficace. Et on a pu donc permettre à un patient, deux patients de remarcher. Ou bien encore autre exemple, des collègues de l'université de Stanford ont permis à un patient tétraplégique d'écrire. C'est-à-dire un patient qui ne pouvait même pas bouger les bras. Eh bien, il pouvait imaginer des lettres. Et la seule imagination de ces lettres était décodée par l'ordinateur pour en faire les lettres qui s'écrivent sur un écran, et donc il pouvait écrire et donc communiquer, en effet, comme vous le dites, par la pensée.
Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il imaginait finalement les lettres qui décomposent son mot, un peu de la même manière où nous sommes nous en train d'écrire, par exemple, des SMS sur notre smartphone, et il pouvait finalement arriver à écrire par la pensée quasiment à la même vitesse que nous, finalement.
Exactement, puisqu'il écrit en pratique, ses collègues de Stanford l'ont montré, à 18 mots par minute, alors qu'en moyenne, on est à 23 mots par minute sur un smartphone, donc il est très efficace. Et il apprend à être de plus en plus efficace avec simplement cette capacité à imaginer le mouvement de sa main écrivant, mais il ne peut plus bouger sa main puisqu'il est tétraplégique, et cet ordinateur qui vient décoder le signal de cette puce pour le transformer en lettres écrites sur un écran. Alors ça c'est des résultats qui datent des 2-3 dernières années.
C'est ce que j'essaie de vous dire, évidemment, parce que quand on est dans le monde de la technologie, encore plus quand on est Elon Musk, on a l'impression que hier, c'est déjà le passé. Donc effectivement, depuis ces 15-20 ans, il y a eu des avancées spectaculaires, mais là, on parle beaucoup de cette implantation de cette puce de Neuralink. Or, comme vous venez de nous le rappeler, il y a plusieurs expériences qui ont 3-4 ans, qui ont déjà démontré des effets peut-être encore plus probants finalement que ceux que s'apprête à faire Elon Musk. Donc qu'est-ce que ça révèle aussi finalement cet engouement médiatique autour de cette expérience de Neuralink?
2-3 ans, c'est peu quand même. Ça veut dire qu'on est quand même dans une actualité, dans un tournant de ces interfaces cerveau-machine et en montrant qu'elles peuvent vraiment servir à soigner des patients. Et ça veut déjà dire qu'on est dans un moment clé de cette technologie des interfaces cerveau-machine. Ensuite, je pense que la grande différence, c'est que, contrairement à mes collègues de l'université de Stanford, la communication ne se fait pas dans un article publié dans la plus prestigieuse revue de science qui s'appelle Nature.
C'est pas la même échelle.
Elle se fait sur X. Et évidemment, avec tous les followers d'Elon Musk sur X, donc puis qui lui appartient, vous l'avez rappelé. Donc évidemment, l'audience est colossale. Et puis, l'autre chose qui change, c'est que c'est pas le fait de quelques universitaires, mes collègues qui travaillent d'arrache-pied pour que ça fonctionne, c'est le fait d'un homme qui a des milliards pour le faire. Donc derrière cette réussite, il y a des milliards, ce qui n'est pas le cas malheureusement de la recherche, hélas. Et puis, avec ces milliards, il y a une ambition. Et l'ambition d'Elon Musk, il ne l'a jamais cachée. Ça n'est pas de réparer, c'est d'augmenter. Donc la grande différence par rapport à ces géniaux travaux, ces implantations géniales qui peuvent changer la vie de patients en grande souffrance de ces 2-3 dernières années, c'est que c'est accompagné par des milliards, ceux d'Elon Musk, et par une ambition incroyable, celle d'Elon Musk.
Alors justement, vous avez fait la distinction importante entre réparer et augmenter. Vous y revenez souvent d'ailleurs au cours de votre ouvrage « L'homme augmenté ». Est-ce que vous pouvez la clarifier une fois de plus ? Parce que je crois que finalement cette frontière entre la réparation et l'augmentation peut être assez ténue.
Alors, je vais surtout clarifier que c'est très difficile de la clarifier. C'est-à-dire que en médecine, force est de constater que souvent, quand on soigne, on obtient un résultat qui est, dans le meilleur des cas, au niveau de ce qui existait avant la maladie, et souvent un peu en dessous. Parce que c'est difficile de se battre contre la maladie, qu'elle entraîne des complications, qu'il y a des séquelles et qu'on fait un peu moins bien parce qu'il va falloir faire avec la maladie qui a fait des dégâts.
Donc si on arrive déjà à ramener le patient à son état pré-maladie ou pré-accident traumatique, c'est déjà une victoire et si on y arrive presque, c'est encore une victoire. Mais là, on est dans la réparation.
Bien sûr. Et on a l'ambition de faire mieux et on a l'ambition de faire toujours mieux. Et en faisant toujours mieux, en fait, on ne sait pas où on s'arrête. Et on ne saura pas où on s'arrête. En fait, c'est impossible de savoir où on s'arrête. Je prends un exemple d'un autre champ que celui du cerveau, qui est celui du cœur. Un exemple littéraire. Dans Réparer les vivants, donc c'est un enjeu de réparation, Maëlys de Kerangal raconte cette incroyable aventure qui est celle de la transplantation d'un cœur. Voilà donc Claire, 51 ans, qui se voit transplanter le cœur de Simon, 19 ans, mort tragiquement dans un accident de surf. Quel est l'état de Claire, 51 ans, avec un cœur d'un jeune homme? Elle a un cœur de jeune homme, littéralement, un jeune homme de 19 ans. Est-ce qu'elle est dans l'état dans lequel elle était avant la transplantation? Non, elle est beaucoup mieux, puisqu'avant la transplantation, elle était en insuffisance cardiaque, donc elle est beaucoup mieux. Mais est-ce qu'elle est mieux qu'elle était avant l'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'elle est mieux que ses copines de 51 ans, parce qu'elle a un cœur de 19 ans? En fait, on ne sait pas quelle est la limite.
Donc là, on pourrait considérer qu'elle est augmentée.
On pourrait dire que le but n'était pas de l'augmenter, mais peut-être qu'on l'a augmentée. Quand moi-même, dans mon exercice quotidien, je prescris un psychotrope, par exemple, à un patient qui souffre d'un trouble attentionnel, avec hyper ou sans hyperactivité.
Comme le cas de la ritaline, par exemple.
Par exemple, la ritaline, le méthylphénidate. Mon but, c'est de corriger ce qui le handicape, c'est-à-dire un déficit attentionnel. Et parfois, c'est difficile de corriger ce handicap et la maladie peut être très invalidante. Parfois, le traitement fonctionne très bien. Et dans le réglage de la posologie, il m'est arrivé de me demander si le traitement que je donnais restaurait, réparer donc les capacités du patient ou lui donner des capacités de concentration supérieures à celles de ses petits camarades. Et honnêtement, je n'arriverai pas à le savoir. Donc vous voyez bien que la différence entre réparer et augmenter, elle est ténue dans l'exercice quotidien de la médecine. Ça, c'est le premier constat du médecin que je suis. Et puis, plus fondamentalement, les technologies dont nous parlons, par exemple les interfaces cerveau-machine, sont exactement les mêmes selon que vous voulez les utiliser pour réparer ou pour augmenter. Donc non seulement le médecin que je suis a du mal à établir la différence entre réparation et augmentation, mais en plus le neuroscientifique que je suis ne saurait pas bien dire comment différencier la technologie selon qu'elle répare ou selon qu'elle augmente.
Alors là où il y a effectivement une ligne de distinction qui peut être claire, c'est l'état du patient ou du non-patient. C'est-à-dire que le projet d'Elon Musk serait peut-être de permettre l'accès à ces technologies pour des gens totalement valides. Là, dans la puce qu'il a implantée très récemment, je crois qu'il s'agit d'un quadriplégique, il me semble. Mais on pourrait tout à fait imaginer que demain, ce soit quelqu'un de valide qui veuille bénéficier justement de cet implant et donc de cette augmentation.
Alors, à l'heure actuelle, bien sûr, compte tenu du caractère invasif de cette opération, qui présente des risques, hein, un risque hémorragique, un risque infectieux, puis le patient se retrouve avec un matériel implanté. Il a quand même une petite puce de silicium dans le cerveau, ce qui peut présenter des complications, ne serait-ce que, par exemple, s'il a un accident de circulation et que donc il est victime d'un moment de décélération, cet implant peut bouger, donc ça peut avoir des conséquences tout à fait délétères. Donc, à l'heure actuelle, un comité d'éthique n'autoriserait ce type d'opération que si il permet des bénéfices cliniques qui sont au regard des dangers de l'opération justifiés. Donc aujourd'hui, un comité d'éthique ne permettrait pas cette opération chez quelqu'un qui ne le justifie pas médicalement.
Un comité d'éthique, mais j'imagine que ces comités d'éthique peuvent largement varier en fonction des territoires, de la loi, de la morale et de la législation en place.
Alors ça va être la question, ça va être la question de l'aspiration, pas seulement du comité d'éthique, mais de l'ensemble de la population générale. Celle d'Elon Musk, on la connaît, hein. Il est très clair, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il avance masqué. Ensuite, il y a la question de la population générale et de la pression qu'elle pourra exercer, puisqu'ensuite la loi, elle est écrite par le législateur. Le législateur, il est élu par la population générale. Évidemment, il y a des règles de contrôle qui sont ceux d'une démocratie. Mais les choses peuvent évoluer. Et puis, la démocratie n'est pas en cours partout. Et donc, on peut s'attendre aussi à ce que, sous certaines latitudes, les contraintes ne soient pas du tout les mêmes. L'attention au cadre éthique ne soit pas du tout les mêmes. Et ce que j'ai pointé comme règle absolue, c'est-à-dire peser les bénéfices et les inconvénients, les risques, eh bien, je suis à peu près persuadé que dans certains pays, cette question ne sera pas la question d'actualité.
Et qu'effectivement, on verra d'autant plus de bénéfices de pouvoir augmenter ses citoyens, peut-être dans une volonté davantage concurrentielle par rapport à d'autres.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque j'ai parlé du cœur tout à l'heure, c'est probablement ce qui s'est passé dans la première transplantation cardiaque. C'est-à-dire que le chirurgien new-yorkais qui était prêt à faire cette transplantation n'a pas pu le faire parce que le cadre légal américain faisait que la mort à venir de ce patient, parce que ce patient, après cette transplantation, malheureusement, serait décédé à un moment donné, aurait fait de lui un criminel. Et donc, il n'a pas pu le faire. Et c'est un jeune chirurgien qui était à ses côtés, un chirurgien sud-africain, qui s'est formé auprès de lui, qui a fait cette première opération dans un autre pays, qui est l'Afrique du Sud, et qui a fait la première transplantation cardiaque. Donc, vous voyez bien comment la limitation dans un pays donné, aux États-Unis, a permis à un autre de faire dans un autre pays, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la première transplantation cardiaque. Et vous savez ensuite que la législation évolué à peu près partout et heureusement on fait des transplantations cardiaques à peu près partout aujourd'hui dans le monde.
D'où effectivement l'importance de rappeler ces règles, ces régulations qui sont des enjeux d'aujourd'hui et surtout de demain. On parle beaucoup d'Elon Musk, vous avez un point commun avec lui, enfin peut-être même d'autres. Vous êtes tous les deux passionnés de science-fiction, vous faites d'ailleurs de nombreuses références dans l'homme augmenté dans votre essai à des œuvres de pop culture, des œuvres américaines, des œuvres de cyberpunk. Je vous propose justement d'en écouter une, un certain Matrix.
Tu es dans notre programme de combat, l'équivalent du programme de réalité virtuelle de la Matrice. Il obéit aux mêmes lois, comme la gravité, mais tu apprendras que ces lois ne sont pas différentes de celles de n'importe quel autre système. Il y en a qu'on peut enfreindre et d'autres qu'on peut violer. Est-ce que c'est clair? Alors frappe-moi, si tu es de taille.
Alors, pour vous rappeler la scène, on a le personnage principal interprété par Keanu Reeves qui peut bénéficier finalement en quelques secondes, quelques minutes d'injections de données, de connaissances ici des arts martiaux. Et lorsqu'on lit les déclarations d'Elon Musk, c'est bien aussi son projet, c'est-à-dire à terme de pouvoir soit télécharger notre cerveau, c'est-à-dire prendre toutes les données de notre cerveau pour faire une sorte de de les transférer sur un outil, ou à l'inverse mettre des connaissances de manière massive dans notre cerveau. Ça, c'est encore de la science-fiction.
Oui, alors merci beaucoup pour cet extrait, parce que je pense que c'est un très bel extrait, et je pense que la science-fiction est susceptible de nous inspirer, y compris dans nos travaux scientifiques. Je crois que c'est très important de toujours suivre et voir ce que cette vision peut nous permettre d'entrevoir. Cela étant, il faut aussi voir les limites. Et en l'occurrence, il y en a une. Hein. Il y en a une qui est fondamentale, c'est que ce que l'on peut faire avec un implant cérébral, c'est augmenter les capacités des régions cérébrales qui sont voisines de cet implant cérébral. En fait, par simple continuité, vous mesurez l'activité du cerveau en regard de cet implant et vous pouvez augmenter les capacités de cette région cérébrale. Vous pouvez, en fait, augmenter quelques compétences du cerveau humain.
De manière très localisée, en fait.
De manière très localisée et pas de façon globale. Et c'est là qu'il y a quelque chose que l'on ne peut pas suivre pour la science-fiction aujourd'hui, et à mon avis demain, c'est l'idée qu'il puisse y avoir un effet global. Soit, comme vous le disiez, pour transférer notre esprit sur un ordinateur, la digitalisation de notre esprit, soit dans l'autre sens, pour transférer l'ensemble des connaissances d'un ordinateur dans un cerveau, à l'image de Neo apprenant une langue étrangère, ou en l'occurrence les arts martiaux, par ce voyage dans l'interface cerveau-machine dans laquelle il se trouve. Eh bien, ça, on peut dire que ça n'est pas possible, mais on peut dire que ça n'est pas possible pour une simple raison, c'est que les 1400 grammes que vous avez évoqués de notre cerveau, c'est pas seulement des grammes, c'est 85 milliards de neurones. Ces 85 milliards de neurones, ils sont entrelacés, entremêlés d'une façon extraordinairement complexe et il n'y a pas une porte d'entrée unique. Il n'y a pas de port USB. Il n'y a pas de connexion qui permette d'activer l'ensemble, d'accéder à l'ensemble comme il en existe sur votre ordinateur qui permet d'accéder à l'unité centrale. Et puisqu'il n'y a pas de port USB, puisque l'évolution ne l'a pas prévu, eh bien, nous n'aurons pas la possibilité d'un transfert massif. Et cette image, elle est toujours très forte, elle est dans nos esprits, si je puis dire, à tel point d'ailleurs, prenons un autre exemple, hein, que dans le dernier Avatar, on peut se connecter comme ça, les navires peuvent se connecter par la queue, comme si c'était un câble USB.
Et une sorte de plug and play.
Un plug and play, exactement, qui nous donnait accès au cerveau de l'un et de l'autre. Ben, ça n'existe pas dans le cerveau, et donc on n'arrivera pas à faire ça. Donc on n'arrivera pas à faire une augmentation globale. Et ça, ça a une conséquence immédiate, à laquelle il faut qu'on pense bien, c'est que puisqu'on ne peut pas faire une augmentation globale, on ne fera que des augmentations locales, c'est-à-dire des augmentations dimensionnelles localisées. Autrement dit, quand on augmente l'homme par les interfaces cerveau-machine, on l'augmente sur certaines dimensions à l'exclusion des autres. Mmh. Et ça, ça a une conséquence immédiate, c'est que on rompt l'harmonie de l'être humain. On crée une forme de disharmonie, on crée une hypercompétence, un hyper-pouvoir dans un champ, à l'exclusion des autres compétences.
Mais est-ce que c'est pas déjà le cas, je dis n'importe quoi, sur la musculation, par exemple, quand on va muscler justement que son bras gauche et pas son bras droit, ou que ses bras et pas ses jambes, on rompt aussi une forme d'harmonie.
Alors vous fréquentez des personnes curieuses, parce que on habituellement ne se muscle pas que le bras droit ou que les jambes. Normalement, justement, celui qui fait de la musculation essaye d'avoir, pour ce qui est de sa musculation, quelque chose d'harmonieux et pas le bras gauche ou le bras droit ou les jambes et pas les bras. Et puis il vous dira que en même temps qu'il muscle son muscle, il a des effets sur son cerveau, ce qui est d'ailleurs pas impossible d'un point de vue physiologique, de fait. Toujours est-il que, plus généralement, quand on éduque un enfant, l'idée que nous avons, c'est de lui donner une forme d'homogénéité, une forme d'équilibre dans ses compétences qui lui permettra d'exercer ses talents, de se développer dans différents champs avec une certaine harmonie. C'est pas d'en faire un hyper spécialiste d'une question, un calculateur prodige par exemple et un inculte complet dans les questions d'histoire ou en littérature. C'est de lui donner une forme d'homogénéité de son savoir et de son rapport au monde. Or là, ce que nous pourrions créer avec l'augmentation de l'homme par les interfaces cerveau-machine, c'est quelque chose qui n'a pas cette harmonie. Et ça, ça va avoir des conséquences, ne serait-ce que pour faire interagir les êtres humains entre eux. Évidemment, on nous dit que dans l'entreprise, et j'entends mes patients m'en parler, il s'agit de faire avec les talents, faire interagir les talents.
Qui sont des hyperspécialisations aussi.
Qui sont plutôt des qualités plus spécifiques de certains, mais en sachant que tout le monde bénéficie d'un dénominateur commun qui permet de faire société, qui permet une interaction qui soit fonctionnelle. Or, si vous ne l'avez plus, cette homogénéité, cette harmonie, celle qui définit l'homme vraiment dans la vision que nous en avons depuis la Renaissance, depuis l'homme de Vitruve chez Léonard de Vinci, si nous n'avons plus plus cet homme inscrit dans un cercle, dans son harmonie, mais une série d'excroissances qui ne permettent plus l'interaction des hommes entre eux. L'enjeu peut être un enjeu d'intégration sociale et peut-être même d'équilibre psychique.
Vous parliez justement tout à l'heure de ces millions de neurones. Là aussi, on entend beaucoup la possibilité d'arriver à en cibler quelques-uns, à en supprimer quelques-uns, et donc par de là même supprimer un souvenir. On parle beaucoup des souvenirs traumatiques. Je crois qu'il y a eu beaucoup aussi de recherches, notamment chez les militaires. Qu'en est-il aujourd'hui de la possibilité d'arriver à identifier, à localiser un souvenir précis et à pouvoir soit le neutraliser, soit essayer même de le supprimer?
Alors on a beaucoup cru et espéré dans cette voie parce que faut bien comprendre que la mémoire traumatique est une mémoire catastrophique pour avoir accompagné des patients se trouvant dans des situations traumatiques terribles.
Notamment après le Bataclan, je crois.
Le Bataclan, par exemple, ou même un accident de la circulation terrible, l'intensité du souvenir traumatique est quelque chose qui peut dévaster une vie et vraiment la paralyser. Et donc l'idée que vous puissiez supprimer un souvenir traumatique est une idée qui est évidemment séduisante. Et elle a été relancée un moment parce que certains patients ayant des électrodes intracérébrales dans le cadre d'une procédure médicale, parce que ces patients avaient une épilepsie et il fallait repérer le site à l'origine de la crise d'épilepsie, donc ces patients qui avaient des électrodes précisément implantées, ont permis de repérer des neurones qui avaient l'air d'être spécifiques d'un souvenir. Et notamment, la publication avait fait grand bruit puisque l'une de ces électrodes avait repéré la trace de Jennifer Aniston.
La comédienne américaine.
La comédienne américaine de la série Friends notamment. Et donc c'était très impressionnant puisque que vous mettiez une photo de Jennifer Aniston dans Friends ou dans Polly and Me, un autre film, eh bien le neurone répondait. Et d'ailleurs même les seuls mots Jennifer Aniston, c'est-à-dire même pas la photo, activaient les neurones. Donc vous pouvez se dire, oui, c'est ici que ça se trouve.
Jennifer Aniston n'existe que là.
Alors l'idée c'était, c'est le nœud, c'est ce qu'on appelle le neurone pontifical, c'est l'endroit où ça se passe. Évidemment, on en est revenu. On en est revenu parce que d'abord, c'était pas un neurone, c'était un groupe de neurones. Ensuite, le lendemain, les chercheurs, qui étaient menés par un collègue très brillant, qui s'appelle Quiroga, ont constaté que le même neurone répondait pour Lisa Kudrow. Lisa Kudrow, c'est l'autre actrice blonde, pas tout à fait blonde en fait, Jennifer Aniston dans Friends, qui est Phoebe. Et donc, voilà une autre actrice de la même série qui active le même neurone ou le même groupe de neurones. Donc, vous voyez, la spécificité n'y était plus tellement. Et puis en plus, ça n'est pas parce que ce neurone s'active pour Jennifer Aniston et Lisa Kudrow que si vous le détruisez, eh bien vous supprimez cette trace. Ça peut être juste l'endroit par où le signal passe. Et puis, troisièmement, en fait, on l'avait trouvé par hasard, ce neurone. C'est-à-dire qu'on avait de la chance d'y être là, mais on n'avait aucune chance de le repérer a priori, en amont, de se dire « je vais aller chercher ce souvenir ». Donc en fait, non, on ne sait pas, par une électrode, aller chercher un souvenir. C'est l'idée de supprimer une mémoire, de supprimer par exemple la mémoire de l'être aimé après votre séparation. C'est le scénario de Eternal Spotlight.
Exactement, c'est pour ça que ce sont aussi des idées qui sont très souvent reprises dans les fictions et dans la science-fiction.
Autre science-fiction. Mais c'est évidemment séduisant, mais on ne sait pas faire ça. Par contre, ce qu'on commence à savoir faire aujourd'hui, c'est utiliser des modalités de réactivation du souvenir en même temps qu'on le fragilise. Par exemple, pour la mémoire traumatique, si vous réactivez un souvenir et que vous le privez des émotions qui sont liées, ce qu'on peut faire d'un point de vue pharmacologique, avec des bêta-bloquants, ou ce qu'on peut faire avec une technique psychothérapeutique, qui est le MDR, eh bien, curieusement, vous allez fragiliser ce souvenir.
C'est peut-être une mauvaise image, mais en essayant un peu de noyer le souvenir aussi, de l'intégrer dans un récit plus large pour essayer de casser sa singularité, son noyau.
Alors, on essaye de l'intégrer dans un récit, et la dimension narrative est très importante, parce que ce souvenir est tellement vif qu'il est intégré dans rien. Donc, la question narrative est très importante. Mais c'est aussi simplement le fait que si un souvenir est réactivé sans toutes ses propriétés, y compris le vécu émotionnel qui était lié, eh bien ce qu'on constate, c'est qu'il ne se reconsolide pas bien, ça veut dire qu'il ne se réinscrit pas correctement dans la mémoire, et donc vous avez une chance de le fragiliser. Et donc nous avons beaucoup de protocoles aujourd'hui en cours dans cette perspective qui consiste à essayer de déactiver des souvenirs traumatiques.
Alors on sait que parfois la musique peut raviver des souvenirs, rappeler de nombreuses expériences à celles et ceux qui nous écoutent. Peut-être que Certains s'y retrouveront avec ce morceau de JB Dunkel, qui est donc la moitié de R, et il s'appelle Transhumanity. Bah oui, c'est notre sujet.
France Culture, le meilleur des mondes, François Saltiel.
Transhumanity dans le meilleur des mondes par JB Dunkel, où ce soir nous parlons de cerveau, nous parlons d'homme augmenté. C'est le titre de l'essai de Raphaël Gaillard, qui est notre invité dans le meilleur des mondes. Raphaël Gaillard, également directeur du pôle Hôpital universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité. Vous avez aimé ce morceau, Raphaël Gaillard ?
Oui.
Il nous a comme ça emmené dans un autre espace. Alors vous avez peut-être aimé le morceau, mais je ne sais pas si vous aimez trop le mot de transhumanisme, parce qu'il est assez peu employé dans votre ouvrage, alors qu'on pourrait potentiellement l'attendre.
Je l'ai évité, en fait, volontairement, parce que je ne sais pas à quelle sauce l'utiliser. je trouve que... On ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Je vois bien ce qu'est l'humanisme, je vois bien ce que sont les humanités, et je ne sais pas ce qu'ajoute l'utilisation de ce préfixe trans. Et donc, je préférerais revendiquer une forme d'humanisme, je préférerais cultiver nos humanités plutôt qu'inventer un mot dont je ne sais pas ce qu'il désigne.
En tout cas, parfois, il peut désigner des personnes comme Elon Musk et d'autres qui veulent imaginer justement un monde futur où ils pourraient survivre à leur propre disparition en transplantant justement ses souvenirs dans une forme d'avatar, même si on a compris tout à l'heure que pour l'instant, ce n'était que de la science-fiction. Mais dans ce monde, en tout cas, des hommes et des humains augmentés, il y a aussi ce risque d'avoir des inégalités entre les humains. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, en cassant cette harmonie, mais aussi l'harmonie d'un humain par rapport à un autre humain. C'est presque une forme de dialectique qui pourrait opposer d'un côté des génies et de l'autre des zombies.
Oui, et en fait, l'enjeu est probablement essentiellement là. Alors, il y a l'enjeu économique, le premier, celui d'une élite qui pourrait bénéficier des techniques les plus spectaculaires quand d'autres n'auraient que le rebut, très cyberpunk, effectivement, bricolage pour certains, et puis ultra-technologie pour d'autres. Ça, c'est l'inégalité par l'argent, et tout le monde n'est pas Elon Musk. Mais je pense que le risque qui est plus fondamental et il tient au fait que tout ça se fait sur un organe qui est fascinant, le cerveau, mais qui a déjà quelques difficultés. Notre cerveau, il fait des choses formidables, il nous permet de discuter, il nous permet de lire, il nous permet de faire plein de choses, mais il se trouve que de temps en temps, il a des ratés. Et nous considérons que à ce niveau de complexité, il connaît des bugs. Et même, nous savons que la différence entre le codage de l'information entre un primate non humain, un singe donc, et nous, elle tient à ça. C'est-à-dire que chez le singe, l'information, le codage, il est plus robuste, il est plus fiable. Et chez nous, il est moins fiable, mais il est plus informatif, il est plus complexe. Il nous permet de faire plus de choses. Mais en fait, ce faisant, nous avons renoncé, au travers de l'évolution, au cours de l'évolution, à la robustesse du signal. Et puisqu'on a renoncé à la robustesse du signal, bah, parfois, on se plante sur le signal, on déraille. Et quand on déraille, on fait l'expérience des troubles mentaux. Et les troubles mentaux, il faut quand même le rappeler, moi je le vis tous les jours comme professionnel de ce champ, c'est ultra fréquent. La schizophrénie, c'est 1% de la population générale, les troubles bipolaires, c'est 2%, la dépression, c'est 20% sur vie entière. Donc une personne sur 5 fera un épisode dépressif caractérisé au cours de sa vie. Donc c'est ultra fréquent, pour citer que ces trois-là, je pourrais en citer une dizaine d'autres. Donc c'est très fréquent, c'est partout pareil d'ailleurs, en Arkansas ou chez les Inuits, c'est partout pareil, parce qu'en fait c'est une caractéristique des êtres humains. Et cette caractéristique des êtres humains, c'est en fait que notre cerveau, il est tellement puissant qu'il ne se supporte plus. Il a des ratés, il a des moments où il bug.
Notre cerveau est un peu en surchauffe, il a du mal à vivre avec lui-même, donc on se dit que si on commence à l'augmenter, on va encore plus le parasiter.
Alors exactement, les troubles mentaux sont déjà le prix à payer de notre puissance, de la complexité de notre cerveau, et donc si on l'augmente encore plus, mécaniquement, le prix sera plus élevé encore. Et donc ce qu'on peut prédire, au-delà de la dysharmonie dont on a parlé tout à l'heure, c'est le fait que ce prix à payer va encore augmenter, donc il y aura encore plus de troubles mentaux. Le seul fait d'augmenter une machine qui est elle-même déjà en sur-régime, eh bien, ça aboutira certes à des plus grandes performances, mais aussi à ce que certains ne le tolèrent pas, certains soient dévastés par l'expérience de l'augmentation, et ceux-là, eh bien, ils souffriront de troubles mentaux. Et vous radicalisez le propos en évoquant même une bifurcation possible, entre ceux qui deviendraient génies par cette augmentation. Alors, il faudrait voir d'ailleurs génie de quoi. On peut aussi être génie du mal. Tout est possible dans le génie, hélas. Et puis ceux qui seraient dévastés, comme carbonisés par l'augmentation elle-même. Un effet Icare, sauf que c'est pas les ailes, c'est le cerveau. Et ça aboutirait à ce que ceux-là deviennent plutôt zombies et qu'il y ait une sorte de bifurcation dans l'humanité entre ceux qui deviennent géniaux et ceux qui deviennent zombies.
Vous avez raison, effectivement, de rappeler cet état déjà de la situation. Dans une tribune dans Le Monde, vous vous alarmez aussi de la hausse de la dépression et des troubles mentaux qui sont en augmentation, parce qu'on est là finalement à se projeter sur un homme augmenté, un homme extraordinaire qui serait supérieur grâce à la technologie, mais peut-être que déjà la technologie en place, en cours, ne serait-ce que les écrans par exemple ou les réseaux sociaux, aggravent certains troubles mentaux dont vous avez parlé. Je vous propose d'écouter justement un extrait d'un reportage, comme il y en a beaucoup, sur les dangers des écrans.
Depuis 5 ans, les études se multiplient de plus en plus précises, indiquant l'impact des machines numériques sur le cerveau. L'étude la plus visuelle a été réalisée par des Chinois. En Chine, l'addiction à Internet est considérée comme l'un des tout premiers problèmes de santé publique. Des chercheurs ont plongé une quinzaine d'adolescents souffrant d'une addiction à Internet dans un scanner cérébral. Les résultats sont spectaculaires. La circulation des fluides est altérée. Les zones en rouge montrent les voies du cerveau rétrécies, où la communication est très fortement ralentie. Des défauts de connexion cérébrale pouvant mener à des symptômes évoquant l'autisme ou les troubles bipolaires.
Voilà, lorsqu'on parle de surexposition, d'exposition aux écrans, on voit d'ailleurs que ça a été un thème qui a été repris par le gouvernement actuellement. J'avoue qu'en tant qu'analyste du numérique, j'ai toujours du mal à me positionner, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échos qui diabolisent un peu les écrans, d'autres qui sont peut-être dans une certaine forme d'angélisme, mais que cette question-là, on a du mal à échapper au manichéisme quand on l'aborde. Donc j'en appelle à vous, en tant que psychiatre, comme de science, en tant que médecin, quelle est votre position, quel est votre avis par rapport à ce que vous avez pu et ce que vous observez au quotidien?
Alors je crois que vous avez tout à fait raison d'éviter le manichéisme, parce que ce manichéisme pourrait nous conduire soit à l'angélisme, celui de ce que vous appelez transhumaniste, à la Elon Musk ou Laurent Alexandre, ou bien à considérer que la technologie fabrique des crétins digitaux, c'est une catastrophe, va des rétro-satanas.
Voilà, Damien Rugier, entre autres.
Il faut s'y refuser. Je crois que c'est une alternative qui est aberrante. Et il faut vraiment se garder de cette alternative, et d'ailleurs nous y reviendrons, j'espère. Il faut aussi être capable de penser l'histoire de l'humanité pour considérer quels ont été les grands changements de l'humanité, les grandes hybridations qui pourraient nous inspirer pour celles que nous connaissons aujourd'hui, l'hybridation technologique. Maintenant, si on parle de l'hybridation technologique, jusqu'ici on a parlé d'une hybridation forte, qui est l'hybridation cerveau-machine par implantation, par interface cerveau-machine par implantation. C'est celle qui, pour Elon Musk, est de nature à nous permettre de faire face à la puissance spectaculaire de l'intelligence artificielle. Il pense que c'est notre seule chance, hein, pour faire face à l'intelligence artificielle. Il nous faut hybrider cerveau et machine pour que nous puissions faire face à la puissance de l'intelligence artificielle. Et c'est ce dont nous avons parlé avec les implants. Mais évidemment, on ne peut pas ignorer une hybridation plus faible, plus quotidienne, qui est celle qui fait que nous n'arrivons pas à nous passer de nos smartphones et les conséquences que ça peut avoir. Et celle-ci, je crois qu'il faut la regarder avec circonspection, avec prudence, sans l'avouer aux gémonies, et en regardant ce qu'elle signifie. Clairement, elle a des effets. Clairement, un like sur un réseau social, effectivement, active les circuits de la récompense dans le cerveau, de même que le sucre ou la cocaïne. Oui, ça, c'est facile à montrer, et ce sont des études faciles à répliquer. Pour autant, les mêmes technologies nous apportent énormément, et avoir à portée de main via Google ou aujourd'hui ChatGPT autant de connaissances et je dirais même autant d'intelligence, évidemment que ça nous apporte quelque chose. La question est de savoir comment nous allons nous avancer vers cette hybridation. Donc je ne vais pas vous faire une réponse définitive en vous disant les écrans c'est catastrophique. Je vais vous dire que je vous ai annoncé qu'il y aura davantage de troubles mentaux parce que pour moi, mécaniquement, alors que nous payons déjà au prix fort la puissance de notre cerveau, eh bien l'augmentation de cette puissance se payera à un prix plus élevé encore. Et je pense qu'on en voit les prémices avec cette hybridation faible, celle des écrans. Mmh. On en voit juste les prémices. Mais en fait, ma réponse n'est pas là. Ma réponse, en tout cas celle que j'aimerais que nous puissions étudier, c'est celle qui nous permettrait d'avancer vers cette hybridation, qui est inéluctable, qu'elle soit faible ou forte, en limitant la casse. C'est plutôt ça qui me semble important.
Et on va en parler justement dans un instant, ce qu'on pourrait même appeler une solution, du moins une piste de réflexion que vous allez nous soumettre. Juste pour peut-être conclure sur ce chapitre des avantages et inconvénients, et j'ai bien vu que dans votre réponse, vous avez échappé aussi au manichéisme, et vous avez tout à fait raison. Vous évoquez notamment dans votre ouvrage l'effet Google, qui consiste par exemple à oublier les informations lorsqu'on sait qu'elles sont sauvegardées dans un fichier ou ailleurs. Je pense que ça, c'est une expérience que nous faisons tous au quotidien. On va chercher une information, on l'a instantanément, il n'y a donc pas un chemin qui est opéré, il n'y a pas d'effort qui est fait pour essayer de la retrouver à travers notre mémoire, et donc on l'oublie quasiment instantanément au moment où on la récupère, et quelque part on ne la mémorise pas, car on se dit qu'elle est constamment à portée de main dans les prothèses mnésiques que sont aujourd'hui nos téléphones portables. Et puis en même temps, comme vous le dites, c'est un accès infini finalement à la connaissance, à l'intelligence, et c'est en cela que ça peut finalement nous augmenter notre culture au quotidien. Ça, c'était juste pour rappeler effectivement les expériences qui se trouvent dans votre ouvrage. Et dans votre ouvrage, donc, une piste de réflexion pour mieux appréhender cette hybridation qui semble inéluctable, la lecture.
La lecture. Pourquoi la lecture? Parce que en découvrant la démonstration formelle de l'effet Google, celui que vous avez évoqué, à savoir le fait que si vous savez qu'une information existe sur un support informatique, alors votre mémoire de cette information se dégrade. Ça a été bien caractérisé, c'est une expérience très bien faite par des collègues d'Harvard en 2011, ça date un peu. C'était Google, c'était avant ChatGPT, et ça montrait bien effectivement que la disponibilité informatique d'une information fait que votre mémoire se dégrade. Le seul fait que vous sachiez qu'elle existe quelque part fait que, en quelque sorte, en vous, s'enclenche l'autodestruction progressive de ce souvenir, de cette connaissance.
Est-ce qu'on se dit que c'est pas si important que ça de la retenir,
puisque c'est qu'on l'a disponible quelque part.
On le vit avec nos numéros de téléphone, évidemment.
Moi, quand j'ai lu ces travaux que j'ai trouvé remarquables de cette équipe d'Harvard, ça m'a fait penser tout de suite à un passage de Platon essentiel dans le Phèdre qui concerne l'inventeur de l'écriture, le scribe Teute, qu'il appelle, puisque c'est en grec Teute. Et Teute invente différentes choses, dont l'écriture. Il est ravi de son invention. Et il annonce au roi ou pharaon Tammuz que ça va changer la trajectoire de l'humanité, puisque la mémoire de chaque homme est augmentée de la mémoire de tous les autres. Donc il décrit une augmentation. Exactement. Et c'est vrai, c'est-à-dire que puisque d'autres ont écrit des choses et qu'il peut se les approprier, sa mémoire est augmentée.
On arrive déjà au préalable, dans une première étape, de se délester de ces informations-là en les transposant sur un support physique qui permet effectivement le partage à l'autre de cette future connaissance.
Exactement, on externalise nos connaissances en les déposant sur un support qui est à l'extérieur de notre corps. Et le livre, on pourrait le dire, hein, on va le dire simplement, c'est déjà un disque dur externe. Et donc... Teute disait, c'est formidable, vous avez la possibilité de cette externalisation et puis de la réincorporation. D'ailleurs, c'est déjà une hybridation. Au moment où vous êtes en train de lire ces connaissances, elles vous traversent, vous les intégrez, vous les ingérez et elles prennent vie en vous. Et donc, c'est une forme d'hybridation. Sauf que le roi Tammuz ou le pharaon Tammuz, qui n'était pas bête, lui voit le contraire et il dit, mais pas du tout. La première conséquence qu'aura ton invention, l'écriture, c'est d'affaiblir la mémoire des hommes, puisqu'ils n'auront plus besoin de se souvenir, puisque c'est disponible en dehors de vous. Effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'il vous suffit d'aller chercher sur Google, et vous savez que c'est sur Google, donc vous n'avez pas besoin de le retenir. En fait, avant, vous saviez que c'était dans votre Encyclopédia Universalis, ou je ne sais quel dictionnaire, ou même vous saviez que c'était dans tel livre qui est à peu près à tel endroit de votre bibliothèque. C'était pas si différent dans le sens de l'externalisation et donc de l'affaiblissement de votre mémoire.
Sauf qu'il me semble quand même que Google, c'est immédiat, c'est qu'en 10 secondes, on peut avoir l'information. Pour aller dans une encyclopédie, il fallait quand même déjà marcher vers la bibliothèque pour se saisir de livres, regarder. Et bah, je ne suis pas spécialiste, hein, mais il semble que tout ce chemin qui amenait justement à l'information était nécessaire, bien utile pour la prochaine fois arriver à se rappeler finalement de l'information parce qu'on reprenait ce même chemin de l'effort.
Oui, vous voulez dire qu'on a musclé son bras droit.
Mais
bien sûr, bien sûr. Mais en fait, là aussi, l'immédiateté, je l'achète pas complètement parce que je pourrais vous donner l'exemple de mes étudiants à l'hôpital ou côté sciences. Il y a une vraie différence entre les étudiants dans leur capacité à faire des recherches sur Google. Faire une recherche bibliographique, par exemple, aller chercher un effet secondaire rare côté hôpital ou un article qui pourrait éclairer telle question d'un point de vue scientifique. Ben, il y a une différence entre les étudiants dans leur recherche. Et à mon avis, cette ingéniosité, c'est un chemin vert, un peu comme celui que vous décriviez pour aller jusqu'à la bibliothèque. Mais je reviens à mon propos. Je pense que, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'hybridation technologique que l'on est en train de traverser là, c'est pas du futur, c'est aujourd'hui, hein, j'espère qu'on a compris que c'est pas de la science-fiction, et on n'a pas seulement besoin d'Elon Musk pour cela, et ben cette hybridation, elle répète notre grande hybridation, celle qui a marqué l'histoire de l'humanité, celle qui nous a fait sortir de la préhistoire, celle de l'avènement de l'écriture.
Alors, j'entends bien ici l'analogie que vous faites, mais là, vous vous projetez justement par la lecture pour être une solution à l'avenir, pour pouvoir mieux accompagner justement cette hybridation. En quoi justement la lecture peut être une solution, un remède ?
Parce que c'est la question que je pose. Et je pense qu'elle vaut la peine d'être posée ainsi. Puisque cette aventure pour l'humanité, Elle a peut-être eu des effets secondaires. Lire, c'est pas si anodin, hein. Parfois, ça donne des effets. Pennac parlait des maladies textuellement transmissibles. Enfin, il se passe des choses quand on lit. Mais dans l'ensemble, c'est une réussite. Et ça a été une réussite à l'échelle collective. Puisque ça a été une réussite à l'échelle collective, nous devrions nous inspirer de cette aventure à l'échelle individuelle. Et donc, mon propos n'est pas de dire les écrans, c'est une catastrophe, l'hybridation technologique, fuyons-la. C'est de dire, il faut y venir en ayant d'abord répété l'hybridation qui, à l'échelle de l'humanité, a fonctionné, c'est-à-dire celle de la lecture et de l'écriture. Donc, mon propos n'est pas de dire, il y a la lecture d'un côté, l'écriture, les humanités classiques, et de l'autre, la technologie. C'est de dire que l'écriture et la lecture sont la préparation qui nous permet de nous armer efficacement pour affronter, avancer et réussir l'hybridation technologique.
C'est en cela d'ailleurs où vous rappelez que ChatGPT, qui est l'autre grande innovation de ce temps en termes d'intelligence générative, c'est avant tout basé sur l'écriture, puisque la quantité de données qui est ingurgitée par la machine provient forcément des écrits et donne cette illusion de pouvoir apporter une réponse intelligente. Juste une petite citation, la culture ne vaut pas tant pour ce que nous pouvons restituer en termes de connaissances, mais parce qu'il en reste une fois que nous l'avons tout oublié. Ça, c'est assez intéressant d'imaginer que lorsqu'on a une information, même si on l'oublie, cette information est entrée, nous a pénétré et quelque part a agi, parfois de manière inconsciente.
Elle a insusé, elle a eu un effet, et c'est ça qui est essentiel. Le but, c'est pas de devenir cuistre et de tout savoir et d'avoir une culture incroyable comme mes collègues normaliens. C'est pas du tout le but. Le but, c'est que votre cerveau ait été transformé par ce que vous avez lu. Et ChatGPT, c'est la démonstration la plus spectaculaire, mais vraiment la plus spectaculaire, peut-être de l'histoire de l'humanité, en tout cas de ces dernières années, de l'efficacité de la lecture. Parce que ChatGPT, c'est quoi? C'est un bout de votre cerveau, c'est une copie d'un bout de votre cerveau. On fait un réseau de neurones formels qui imite donc les parties superficielles de votre cerveau, du cortex, et on le met à un endroit et on essaie de le rendre intelligent. Et comment on le rend intelligent? Ben, c'est pas en lui montrant des images, ça aurait pu être ça au XXIe siècle.
Surtout à l'ère du XXIe siècle.
Eh ben non, on lui fait lire des millions de pages, et lire des millions de pages, ça le rend intelligent. Et je parle pas tant de sa culture, parce que sa culture, elle a des défauts, il hallucine, c'est pas tout à fait le terme exact pour le psychiatre que je suis, en fait, on devrait dire il confabule, mais peu importe. Il a quelques défauts sur les connaissances, mais ce que l'on peut dire, c'est que ayant été traversé par tous ces textes, eh bien, quelque chose s'est passé, en l'ayant peut-être même oublié, qui reste, et c'est une forme d'intelligence. Et donc, ChatGPT, c'est aujourd'hui la démonstration la plus spectaculaire que lire rend intelligent. Et le paradoxe, d'ailleurs, c'est qu'au moment où l'intelligence artificielle en vogue nous montre que la lecture rend intelligent, eh bien, nous serions en train de moins lire, nous, les Homo sapiens.
Voilà, c'est un paradoxe, ou des ambivalences, comme la technologie adore justement nous en proposer régulièrement. Alors, est-ce que Juliette Deveau, qui vient de nous rejoindre, bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Pourra un jour faire partie de l'ordre de la lecture. Hein. C'est, vous appelez de votre vœu justement cette création d'un ordre de la lecture.
Bienvenue.
En attendant, Juliette Deveau va plutôt nous lire ou nous interpréter son journal.
Juliette Deveau.
Un journal qui empruntera la forme de la chronique. Et cette chronique, dans cette chronique, vous allez nous parler d'une étude parue cette semaine qui revient sur le rapport des artistes-compositeurs. Tiens, on en parlait, à l'intelligence artificielle.
Et oui, c'est une étude parue il y a quelques jours et qui est le fruit d'une commande de la SACEM et de son homologue allemande, la GEMA, qui s'intéresse au ressenti des professionnels de la musique face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Un chiffre, notamment, a été largement repris dans la presse. Parmi les 15 000 artistes interrogés, 71% d'entre eux redoutent que l'usage généralisé de l'intelligence artificielle entraîne une réduction de leurs revenus et menace à terme leur avenir professionnel. Une inquiétude qui s'appuie sur une réalité, puisque les œuvres produites aujourd'hui par les IA sont en effet générées à partir des œuvres d'autres musiciens qui subissent la spoliation sans pouvoir revendiquer leurs droits d'auteur, faute de transparence des modèles.
Mais c'est un autre chiffre qui a retenu votre attention.
Oui, on apprend aussi, grâce à cette étude, que 35% des auteurs compositeurs de musique ont déjà utilisé eux-mêmes l'intelligence artificielle dans leur processus de création. Et parmi les moins de 35 ans, les moins de 35 ans, ce chiffre s'élève même à 51%. Une donnée qui étaye l'idée selon laquelle l'hybridation technologique est bien en cours. Les jeunes artistes utilisent d'ores et déjà ces outils pour accroître leur créativité. Ces derniers mois, on a ainsi pu voir plusieurs chanteurs s'amuser de créations générées par IA, reprenant leur voix, allant jusqu'à interpréter certaines de ces compositions artificielles sur scène, comme ce fut le cas de la chanteuse Angèle à la fête de l'UMA en septembre dernier. Mais alors, comment expliquer cette relative sérénité générationnelle? Si certains pessimistes peuvent y voir une forme d'inconscience de la jeunesse, il me semble qu'elle relève plutôt d'une meilleure connaissance du fonctionnement des intelligences artificielles par les jeunes, et donc de ses limites. Car en matière de créativité artistique, comme le rappelle notre invité du jour Raphaël Gaillard, l'IA est encore loin de pouvoir rivaliser avec l'homme. C'est ce dont se sont rendus compte les deux youtubeurs McFly et Carlito après avoir organisé une vidéo défi dans laquelle ils demandaient à leur public de détecter quelle chanson était générée par IA et quelle chanson ne l'était pas. Seulement voilà, le concept est tombé à l'eau, le public arrivait à détecter presque systématiquement lorsqu'un vrai artiste était derrière une composition. Écoutez plutôt.
J'adore cette version.
Ah oui.
Ouais, ça sonne trop bien pour que ça soit IA.
Ça sonne trop bien. Tout le monde a choisi ?
Oui.
Vous êtes sûr ? Pour plein de raisons, ça peut être gênant pour nous, mais personne veut changer d'avis. Hein.
Bon, allez, elle est pour vous aider. Si vous
la révélation de IA, pas IA, c'est dans 3, 2, 1.
Bravo !
Alors François, il n'y a pas IA.
Ah, j'ai la pression. Allez, je vais dire que c'est un vrai artiste.
Et c'est un vrai artiste en effet, et c'est donc un aveu d'échec pour l'intelligence artificielle qui résonne avec la thèse défendue dans votre livre, Raphaël Gaillard. L'art échappe et échappera toujours à la concurrence de la machine, car ce qui fait la singularité des œuvres humaines réside justement dans l'imperfection, dans ces contretemps inattendus, dans ces ruptures de rythme qui s'expliquent selon vous par notre contact direct avec le monde physique. Une bonne nouvelle pour les artistes qui pourront désormais mais appréhender avec plus de sérénité leur future collaboration avec la machine.
Une chronique singulière à retrouver sur l'application Radio France. Raphaël Gaillard, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit par Juliette Devaux ?
Alors, tout a été dit et je pense que c'est passionnant de regarder ce qu'il en est de la créativité de l'IA et de ses limites, notamment parce qu'elle n'a pas de corps, ce qui est une grande limite.
Alors l'IA n'a pas de corps, du moins pour l'instant, même si on sait que beaucoup de recherches sont actuellement en cours pour donner un corps à cette IA, notamment par beaucoup de spécialistes de la robotique. Elle n'a pas de corps, mais elle peut peut-être avoir des maladies mentales. Vous le soutenez aussi dans votre ouvrage ?
Oui, parce que elle est construite, j'ai dit tout à l'heure, en imitant notre cerveau. Et elle est même construite en ayant accepté d'avoir la maîtrise sur ce qu'elle produit. C'est ça, hein, l'IA, c'est un réseau de neurones formels qu'on éduque avec, on l'a dit tout à l'heure pour ChatGPT, la lecture de millions de textes. Et ça, ça aboutit à des choses dont on ne sait pas trop ce que c'est, un peu comme on ne sait pas trop ce qui émerge de notre cerveau. Et il y a toutes les raisons de penser que ce qui affecte notre cerveau affectera l'IA. Et c'est d'ailleurs frappant de voir qu'aujourd'hui, quand on interroge ChatGPT, surtout quand on lui demande d'interagir, par exemple, avec la production d'images, bah, ça produit parfois des choses tout à fait incongrues, des choses qu'on n'attendait pas du tout, de l'ordre du lapsus pour le psychiatre que je suis. Et si on rajoute d'autres choses, des émotions par exemple, parce qu'on va rajouter des émotions, c'est important d'avoir des émotions. On sait par exemple chez l'homme que nos choix ne sont pas bons si nous n'avons pas d'émotions. La rationalité économique pure, sans émotions, en fait ça ne marche pas. Il faut des émotions pour pondérer les choix et faire des bons choix dans la vie. Donc on va rajouter des émotions à l'IA et on va y arriver. Hein.
C'est une grande question, ça. Est-ce que justement l'intelligence artificielle pourrait être dotée d'émotions ?
Oui. Eh ben, on va le faire. Et je pense que ça sera une condition de sa progression. Mais seulement, moi, ce que je peux vous dire comme psychiatre, c'est que l'accordage entre les idées et les émotions, ben ça tient un peu du miracle. Il a fallu le cultiver sur des millions d'années au travers de l'évolution. Et à l'échelle d'un individu, ça tient du miracle. Et il y a plein de moments où ça dérape, où ça fonctionne pas bien. Et c'est ce que je vois, moi, comme psychiatre. Eh bien, si vous dotez le même cerveau, parce que c'est à peu près la même chose, d'émotions, générations qui imitent les nôtres, ben on va avoir les mêmes désaccordages, les mêmes problèmes, on va avoir la même psychopathologie, peut-être un peu différente. Et on est déjà débordé pour les êtres humains, mais je peux vous le dire, on va être débordé aussi pour l'IA. Il va falloir la soigner aussi.
Et ben voilà, peut-être un métier de demain. Psychiatre d'IA, on parle beaucoup des IA qui sont là pour soigner les humains, mais à quand les humains pour soigner les intelligences artificielles? Merci beaucoup Raphaël Gaillard d'être venu ce soir dans Le Meilleur des Mondes. Je rappelle votre ouvrage L'Homme Augmenté, paru chez Grasset, à mettre entre toutes les mains, même les mains droites, quoi. Je crois qu'ils sont d'ailleurs les plus musclés. Merci pour la préparation de cette émission, musclée également de Juliette Deveau, accompagnée par Lodine Storelli, qui vient de nous rejoindre dans cette équipe. Qu'elle soit la bienvenue au son ce soir, Alex Dang, à la vidéo, Vincent René, et à la réalisation de cette émission, Perret Le Rare. Rendez-vous la semaine prochaine.